Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur Canal Academy. Vous le savez, depuis Henri IV, les rois de France sont des Bourbons, ou étaient des Bourbons, devrais-je dire. Et peut-être avez-vous oublié, mais l'Académie française a compté en son sein deux membres portant le nom de Bourbon, le poète Nicolas Bourbon, élu en 1637, autrement dit dans les toutes premières années de la création de l'Académie française au moment de sa fondation, et puis le romancier diplomate Jacques de Bourbon-Busset, élu lui en 1981 et qui nous a quittés en 2001. Mais d'où vient le mot Bourbon ? Alors nous allons poser cette question à mon invitée, Jeanne Cressange, qui est bourbonnaise et qui a publié un ouvrage qui s'intitule « Je vous écris du Bourbonnais », publié chez Serge Domini, éditeur. Bonjour Madame Cressange.
Bonjour Madame.
Merci d'être venue jusqu'à nous. Sur les bords de la Seine, ça va vous changer des bords de l'Allier. C'est vrai que la région bourbonnaise n'est pas très connue des Français, trop méconnue, non ?
Elle n'est pas connue du tout. Personnellement, moi, j'en souffre beaucoup en tant que bourbonnaise. Et chaque fois, naturellement, que je peux, dans un livre, parler, faire un petit clin d'œil au bourbonnais, je le fais. Mais on passe par le bourbonnais, comme on dit, on passe par le bourbonnais pour aller ailleurs.
On devrait s'y arrêter, car c'est une terre qui est très, très riche en trésors historiques, des châteaux, des églises du Moyen-Âge. C'est véritablement une région à découvrir. Alors, dans vos œuvres, elles sont très nombreuses, en effet. Vous avez eu beaucoup de succès avec Le luthier de Mirecourt, qui est paru chez De Noël. Là, il y a un petit clin d'œil au Bourbonnais. Mirecourt, c'est dans les Vosges.
Absolument. Mirecourt, comme on le sait, et comme on ne le sait pas non plus, est la ville, je pourrais dire, internationale de la lutherie. Elle l'est toujours, puisqu'il y a l'école internationale de la lutherie à Mirecourt. Mais son apogée était au XVIIIe siècle, lorsque ça m'a intéressé d'écrire un roman dont le héros est un luthier de Mirecourt, mais qui reçoit à un moment donné, et c'est un personnage qui devient de plus en plus important dans le roman, un luthier de Janzat qui vient de Janzat pour se perfectionner.
Janzat dans le Bourbonnais,
donc,
alors.
Voilà.
Et dans votre roman Le soleil des pierres, vous imaginez un tailleur de pierre, je suppose.
C'est un tailleur de pierre qui, à un moment donné, travaille à la cathédrale de Moulins.
Paru, lui, chez Le Cherche Midi éditeur. Donc, je repose ma question. D'où vient le mot Bourbon ?
Alors, on peut dire que Bourbon vient de boue, n'est-ce pas ? C'est-à-dire la terre pleine d'eau. Parce que, comme vous le savez, madame, puisque vous avez souvent été en Bourbonnais, il y a de l'eau partout, c'est-à-dire non seulement des villes d'eau, mais il y a des sources, il y a des rivières, bien sûr, des ruisseaux, des sources. C'est une terre pleine d'eau, donc pleine de génies et pleine de fées.
En tout cas, pleine de boue. Mais est-ce que ça ne vient pas aussi du
alors,
dieu gaulois?
Alors, on dit aussi que alors, c'est le dieu gaulois. Oui, c'est ça.
Borvaux, d'ailleurs, voilà, ça vient peut-être de la même racine.
Voilà. Et donc, bien sûr, on préfère dire que ça vient du dieu.
Alors, dans votre récit, je vous écris du Bourbonnais, vous mêlez très habilement à la fois les souvenirs personnels et puis la description des lieux de jadis, d'aujourd'hui, vous évoquez beaucoup de souvenirs. Peu de Français, je le disais, connaissent cette ancienne province bourbonnaise, aujourd'hui délimitée par le département de l'Allier, qui a été donc un duché important, une terre avec multiples visages, forêts, montagnes, plaines, vignobles, bocages, mines, donc beaucoup de paysages différents. Et je vous propose, Madame Cressange, de partir à la recherche des académiciens qui ont habité cette terre et qui l'ont aimé, bien sûr. Première étape, je vous propose le château de Busset, justement. Comment se présente ce château ?
C'est un château qui a, quand on arrive devant ce château, on est un peu ahuri, c'est immense, c'est une forteresse. Et puis quand on entre, c'est tout à fait différent. Et il y a des jardins merveilleux, et puis si on le visite peu à peu, c'est un très très beau château avec des fresques murales qui sont très très belles le long des escaliers. Et puis les chambres sont superbes. Ce château a toujours été extrêmement bien entretenu par la famille et elle est restée d'ailleurs entre les mains de la famille. Moi, j'ai toujours ému quand j'y vais parce que j'ai eu l'honneur et la chance de rencontrer à plusieurs reprises Jacques de Bourbon-Bucet. C'était un écrivain que j'aimais beaucoup. J'aimais son œuvre, mais aussi j'aimais sa personne.
Jacques de Bourbon-Bucet, donc, qui a été élu à l'Académie française le 4 juin 1981, il a succédé à Maurice Genevoix sur le 34e fauteuil. Je l'ai dit, il nous a quittés en 2001 à Paris. Son œuvre, je crois, on la résume souvent à l'amour qu'il portait à son épouse.
Au lion. Mais
il y a, voilà, qu'il appelait le lion. Mais il y a peut-être d'autres choses, sans doute.
Oui, il y a ses premiers romans qui sont extrêmement intéressants parce que c'est un homme de réflexion. Donc, si vous voulez, il a toujours écrit. Non seulement il avait un style superbe, mais c'est pas ce qu'on appelle simplement un romancier. Il ne raconte pas simplement une histoire. Chez lui, il y a toujours une réflexion, une pensée qui porte l'action. Et d'ailleurs, il était comme ça. Et moi, ça m'intéresse toujours beaucoup.
Il compte parmi ses écrivains diplomates, car il y en a eu plusieurs dans l'Académie française, des écrivains diplomates, car il a fait aussi, et parallèlement à sa carrière d'écrivain, une grande carrière de diplomatie. Oui, il faut aussi rappeler qu'il a été prisonnier en 40, qu'il s'est évadé deux fois, d'ailleurs, c'est tout de même assez intéressant et important à signaler. Et puis qu'il a effectivement été nommé au cabinet de Maurice Schumann, qu'il a été ministre, ambassadeur, enfin voilà, c'est une figure que nous avons plaisir à évoquer aujourd'hui avec vous.
Et puis c'était un homme, vous savez, quand vous dites il s'est évadé, il s'est toujours évadé. C'était un homme d'une grande liberté.
D'une grande liberté, mais ce n'était pas si facile de s'évader en 1939, sans doute. Deuxième étape avec Jeanne Cressange dans le Bourbonnais, j'avais envie de vous faire parler de Glozel. C'est un lieu un peu mystérieux, presque, j'allais dire, un peu sulfureux. Que s'est-il passé à Glozel ?
Alors, c'est très curieux parce que c'est une histoire que je n'ai jamais, si je puis dire, perdue de vue. Parce que quand j'étais petite, mon grand-père en parlait. L'histoire s'est passée au début du XXe siècle. Et des paysans, en labourant leur terre, enfin une terre qu'ils venaient d'acheter, pardon. Et la vache, parce que c'était des paysans qui étaient pauvres, il n'y avait même pas de chevaux, n'est-ce pas ? Ils labouraient avec une vache. Et puis la vache, les deux pieds de devant, sont tombés dans un trou, ont fait un trou dans la terre. Et puis ils se sont précipités et ils ont vu dans ce trou, d'abord pour l'attirer, ils ont retiré des ossements. Et puis aussi des plaquettes de terre.
Plaquettes gravées ?
Plaquettes gravées. Alors, ils étaient un peu étonnés, mais bon, ils ont ramené ça à la maison. La grand-mère de l'enfant, parce qu'il y avait des laboureurs, il y avait un grand-père et son fils, les Fradelles. Donc, le petit-fils était un enfant, il avait 12-13 ans, il était très, très curieux. Et alors, c'est lui, au fond, peut-être que l'affaire n'aurait pas eu lieu si ce jeune homme n'avait pas posé des questions. L'institutrice s'en est mêlée, l'institutrice en a parlé à...
Donc la question, c'était quoi ? C'était de savoir,
Savoir qu'est-ce
ce qui signifiait ces inscriptions. Une écriture inconnue.
Une écriture inconnue. L'affaire est venue aux oreilles d'un médecin thermaliste de Vichy, parce que Claude Zell se trouve à côté de Vichy, et qui s'intéressait à l'archéologie.
Voilà, et alors elle est remontée, cette affaire qu'on a appelée l'affaire Glozel, d'ailleurs on l'appelle toujours comme ça car elle n'a jamais été résolue, elle est remontée jusqu'à un académicien qui était fort érudit à l'époque et dont on ne contredisait pas trop la voix, c'était Salomon Reinhardt, qui était d'ailleurs à l'époque, je crois, président ou directeur général, conservateur général du musée des antiquités préhistoriques de Saint-Germain-en-Laye. Donc quand il disait quelque chose, alors lui, il a trouvé que ce n'était pas une écriture.
Non, il disait que c'était des faux et que
c'était des faux,
c'était des faux et que c'était les paysans qui avaient, les découvreurs du trésor, si l'on peut dire, qui avait gravé ces plaques et qui après les avait enterrées. Alors ça scandalisait mon grand-père, parce qu'il y avait des reproductions dans les journaux. Il disait, mais comment des pauvres bounoums comme moi, disait-il.
Bounoums, c'était bounoums, un mot bourbonnais.
Oui, c'était un mot bourbonnais. Des pauvres bounoums comme moi, comment est-ce qu'ils ont pu faire une chose pareille ? Et alors, l'affaire a été très loin parce que on a effectivement traîné ces pauvres paysans en justice en les déclarant faussaires.
Et depuis, d'ailleurs, on ne sait toujours pas.
On ne sait toujours pas parce que
née cette écriture.
Tout a été enterré. Il y a des choses qui ont disparu. Et il y a un petit musée à Glozel, oui, qu'il faut absolument aller voir. En plus, il est tenu par un garçon charmant qui est, comme moi, Glozelia.
Glozelia, vous vous affichez Glozelienne. Bon, voilà. C'est dit. Je vous propose une troisième étape dans cette terre de Bourbonnais. Commentrie, qui peut-être est une des villes pas très connues du Bourbonnais, mais où est né un académicien, alors pour le coup très célèbre, qui est Émile Malle, qui était académicien d'abord à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, et puis ensuite à l'Académie française. Les dates d'Émile Malle, c'est 1862-1954, ce qui n'est pas si vieux. Comment l'avez-vous rencontré? L'avez-vous connu?
Je ne l'ai pas rencontré. Je l'ai rencontré, si je puis dire, d'une façon très curieuse. J'avais une amie à Commentry, et j'ai toujours une amie à Commentry, qui est d'origine polonaise et qui a toujours beaucoup souffert de ne pas avoir pu faire d'études supérieures, disons. C'est Colette, c'est l'écrivain Colette qui l'a attirée vers la lecture, l'écriture et la nature. C'est une fille qui vraiment était proche de la nature. Et peu à peu, elle a découvert, en lisant, en s'intéressant aux gens de Commentry, parce que Commentry est une ville minière,
oui.
Était du moins une ville minière, ce qui fait que c'était les mineurs polonais qui venaient travailler à Commentry. Donc, comme vous le voyez, elle était d'origine très simple. Et sa mère, d'ailleurs, avait eu beaucoup de mal à apprendre le français. Et elle, en lisant, avait découvert ce personnage. Et très curieusement, c'est elle qui me l'a fait découvrir.
Émile Malle, grand spécialiste des cathédrales, auteur de nombreux ouvrages sur la cathédrale de France, bien sûr. Et aussi sur Rome, parce qu'il a été, je crois,
directeur
de l'École française de Rome.
Voilà, exactement. Et c'était ses deux passions, au fond, c'était les cathédrales et Rome. Mais on l'appelait d'ailleurs le déchiffreur des cathédrales.
Alors, sur Canal Académie, nous avons des émissions sur Émile Malle, bien sûr, dont une, je m'en souviens, qui montre comment Marcel Proust, dans des lettres inédites qui sont d'ailleurs ici à la bibliothèque de l'Institut, s'informait auprès d'Émile Malle pour avoir des renseignements précis sur les cathédrales. Oui. Donc, c'est pour dire qu'Émile Malle était une valeur reconnue. Et à l'Académie française, où il a été élu en 1927, il a succédé à Claude Farrère, je crois. Donc, voilà, Émile Malle, grande figure bourbonnaise et grande figure des académies aussi. Une autre étape, alors vraiment dans un petit village du Bourbonnais, Bransat. Que se passe-t-il à Bransat?
Alors, c'est un petit village et un grand lieu, je dirais.
Ah voilà, petit village et grand lieu, d'accord.
Oui, c'est vrai, c'est un petit village, pas loin de Saint-Pourçain. J'ai eu également l'honneur et la joie d'y rencontrer Jean Cluzel, qui est devenu, je peux dire, un ami. Et donc, c'est là où je me souviens toujours de la première fois. Non pas où j'ai rencontré Jean Cluzel, mais où je suis allée à son club, au club qu'il a...
Position, ça s'appelait.
Oui. À l'époque, j'habitais Guéret. Et c'était l'hiver, et avec mon mari, nous sommes venus de Guéret en voiture. Et on s'est un peu perdus. Et je dois dire qu'à un moment donné, on s'est trouvés dans le brouillard. C'était une route assez difficile. Mais quel bonheur quand nous sommes arrivés à ce club Position, où d'abord il y avait énormément de monde. C'est ça qui était extraordinaire, c'est qu'il y avait énormément de monde, des gens très attentifs. Pardonnez-moi, j'ai oublié la personne qui était invitée. Je sais que c'était un ministre.
Mais il faut dire qu'il en a invité pendant plus de 40 ans. Alors, il y a eu de quoi
Alors, chaque fois que nous le pouvions, ou que je le pouvais, puisque moi, mes parents habitaient pas très loin, quand j'étais en vacances avec eux, nous allions au club Position et c'était toujours un vrai bonheur d'entendre justement énormément de personnalités que M. Cluzel invitait. Et puis, naturellement, à Bransat, il y avait également, une fois par an, la grande journée littéraire où il réunissait tous ces... Et souvent, il faisait très beau. C'est au mois d'octobre, mais je ne sais pas, il est favorisé, M. Cluzel, je crois, par le ciel, parce que c'est toujours très beau et on déjeunait dans le jardin pour le prix Allen.
Alors, c'est pour les prix Allen, donc, oui. Qui ont toujours lieu, oui. Qui ont dépassé 20 remises de prix. Vous-même, vous avez d'ailleurs été lauréat, oui. Du prix Allen en septembre 1995. Ces prix Allen qui sont destinés à récompenser pas seulement des écrivains, mais aussi des gens, oui. Qui, par leurs talents divers, mettent en valeur le Bourbonnais et l'Allier. Allen, bien sûr, c'est la définition du duc Louis II de Bourbon, prisonnier des Anglais, et qui reprenait ce mot pour dire « allons tous ensemble ». Voilà, c'est une devise auquel, évidemment, les Bourbonnais sont très attachés. Et pour terminer ce petit voyage dans le Bourbonnais, Madame Cressange, je vous propose de nous rappeler un petit peu que Racine et Boileau et Fénelon, tous académiciens, fréquentaient ou en tout cas aimaient Bourbon-l'Archambault.
Oui, Bourbon-l'Archambault. Donc alors là, vraiment, c'était la petite ville, je dirais, la plus proche de l'endroit où je suis née. Mes parents avaient une maison, j'ai vécu moi-même. Moi, j'aime tous les villages, toutes les villes, mais enfin, j'ai un penchant, on va dire, pour Bourbon-l'Archambault, justement, à cause de tous les grands personnages qui l'ont fréquenté. En effet, ceux que vous avez cités, et je crois que c'est un de ceux que vous avez cités qui
Boileau.
Écrivait, c'est Boileau,
Boileau,
n'est-ce pas, qui écrivait
à
Racine en disant, au fond, je résume, que quand il quittait Bourbon-l'Archambault, il était extrêmement triste, n'est-ce pas? Et Madame de Sévigné disait un peu la même chose aussi.
Elle allait prendre les eaux à Vichy, mais tout le monde connaît Vichy tout de même dans l'Allier.
Oui, alors tout le monde connaît Vichy, mais elle avait aussi un petit faible. Elle descendait chez Madame de Montespan. Elle avait aussi un petit faible, parce que je dois dire qu'à l'époque, il y avait un médecin extrêmement renommé à Bourbon-l'Archambault. Bourbon-l'Archambault avait un tel succès depuis d'ailleurs de nombreuses années avant Madame de Sévigné, que vraiment, on considérait les eaux comme non seulement... Enfin, elles guérissaient tous, ces eaux. C'était extraordinaire.
Alors aujourd'hui encore, Bourbon-l'Archambault brille par deux lieux, les thermes qui sont très jolis et qu'on peut visiter et en profiter si on veut. Et puis aussi un château féodal qui est resté très magnifique,
très beau,
qui est vraiment le siège des Bourbons. Et d'ailleurs, Archambault, c'est le prénom d'un grand nombre de Bourbonnais
départ
de la dynastie.
Des premiers Bourbons.
Alors, si vous avez envie de poursuivre ce petit voyage un peu court, mais tout de même sur le Bourbonnais, bien, je vous conseille de lire l'ouvrage de Jeanne Cressange, « Je vous écris du Bourbonnais », paru chez Serge Domini, éditeur. Et comme vous avez aussi écrit « Je vous écris d'Épinal », on va le signaler aussi, même si ce n'est pas la même région. Merci beaucoup, Madame Cressange.
Merci,
à bientôt.